passage premièrement dans le livre des Nombres, au chapitre 4. Livre des Nombres, chapitre 4, verset 29. Quant aux fils de Merari, tu les dénombreras selon leur famille, selon leur maison de père. Tu les dénombreras depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, et jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui entrent en service pour s'employer au service de la tente d'assignation. Et c'est ici la charge de ce qu'ils auront apporté, selon tout leur service à la tente d'assignation. Les ailes du tabernacle et ses traverses, et ses piliers et ses bases, et les piliers du parvis tout autour, et leurs bases, et leurs pieux, et leurs cordages, tous leurs ustensiles selon tout leur service. Et vous leur compterez, en les désignant par nom, les objets qu'ils auront à charge de porter. C'est là le service des familles des fils de Merari pour tout leur service. À la tente d'assignation, sous la main d'Itamar, fils d'Aaron le sacrificateur. Nous lirons d'autres passages. Chaque lecteur quelque peu attentif des livres de Moïse a pu constater que chacun d'eux est marqué par une pensée dominante. Le livre de la Genèse nous parle de l'appel. Il est marqué par un chapitre d'une importance qu'il est nécessaire de souligner, le chapitre 22e, qui nous entretient d'une manière éloquente du sacrifice de Christ dans la figure de celui d'Isaac. Le livre de l'Exode revêt le caractère du rachat, un peuple mis à part pour Dieu, racheté, délivré, sur la base également d'un sacrifice, dont le chapitre 12e nous entretient en figure, celui de l'agneau pascal dont le sang a été répandu sur les linteaux des portes et en vertu duquel l'Éternel a passé par-dessus, épargnant ce peuple choisi du jugement dont il va frapper les premiers-nés des Égyptiens. Le livre du Lévitique a pour thème s'approcher. S'approcher de Dieu en vertu des sacrifices dont les diverses classes et catégories sont développées, accordant la primauté à l'offrande de l'Holocauste, ce qui nous montre que dans la pensée de Dieu, Christ s'est offert premièrement à Dieu. Le chapitre 16 nous entretient d'une manière particulière de cette approche en nous développant les sacrifices du grand jour des propitiations. Dans le livre que nous venons d'ouvrir, le livre des Nombres, il s'agit de marcher. Marcher au travers d'un désert vers un but. Et dans ce livre de la marche, il sera fait tout à la fois l'expérience de la fidélité de la part de Dieu et des défaillances du côté de l'homme. Des ressources sont données pour la marche, ce que traduit d'une manière particulière le sacrifice dont il est fait mention au chapitre 19e, en celui de la génisse rousse. Dans le livre du Deutéronome, nous avons le souvenir. Ce testament du grand législateur retrace en quelque sorte les pensées de Dieu, les rappelant au peuple au terme d'un ministère si fécond et approuvé de la part de Dieu, qui prend un soin particulier de ce serviteur qu'il ensevelira lui-même. Le chapitre 16 de ce livre du Deutéronome nous entretient des trois grandes convocations qui nous parlent tout à la fois du passé, la Pâque, du présent dans la fête de la Pentecôte et du futur dans celle des tabernacles. Dans ce livre des Nombres, nous rappelons donc qu'il s'agit de la marche dans le désert. Et cheminant ici-bas, il y a des faits à porter, il y a des fardeaux, il y a des tâches, il y a des services. Porter et garder ce qui doit être porté. Et nous pouvons constater que tout au long de la parole de Dieu, le fait de garder ce qui est confié constitue une pensée continue, tout au long des Écritures. Le premier homme placé dans le jardin des délices n'a pas été placé là pour être inactif. L'Éternel lui a donné une tâche qui consistait à garder, à cultiver ce domaine dans lequel tout était de nature à répondre aux aspirations d'un homme exempt de péché. Nous savons bien ce qu'il a fait de cette mission qui lui a été confiée. Mais dès le départ, l'homme reçoit donc une tâche qui consiste à garder et à cultiver. Si nous allons plus avant dans le cours des économies, sous la loi, l'Éternel a donné à son peuple le privilège de connaître la volonté de l'Éternel, la volonté de Dieu, et cette loi, il devait la garder, la cultiver dans le sens qu'il devait s'en nourrir. Et le roi en Israël, selon Deutéronome 17, Exode 17 plutôt, devait faire une copie pour lui-même de cette loi et la lire tous les jours, garder et cultiver. Les instructions se poursuivent dans le même sens, et si nous pensons au proverbe, pour ne citer que quelques points de repère au sujet de cette pensée générale, combien de fois le sage met en garde et place le fils, celui qui est introduit dans des relations filiales, devant son privilège et sa responsabilité de garder les commandements qui lui ont été confiés et communiqués. Garde mes commandements, c'est là le tout de ta vie. Acquérir la connaissance, la serrer dans son cœur, la garder. Lorsque Paul écrira à son bien-aimé enfant Timothée, que lui dira-t-il? Garde le bon dépôt. Serre dans ton cœur ces choses que tu as le privilège de connaître, qui ont fait ton bienheureux partage dès ton enfance. Tu as le privilège de connaître ces cinq lettres dès ton enfance, garde-les et sois-en pleinement convaincu. Quel est le certificat que l'Esprit de Dieu nous donne à l'égard d'un témoignage fidèle aux dernières pages de l'Écriture, celui qui nous est communiqué à l'adresse de Philadelphie? C'est à l'égard du fait qu'elle a gardé sa parole. Peu de force. Ce n'est pas la mise en évidence et la louange de sa puissance, mais c'est l'évocation d'une fidélité et d'un attachement à ce qui a été confié. Qu'est-ce qui a été confié à l'Église? Qu'est-ce qui nous est confié? Sa parole. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Et les promesses qui y font suite. Ainsi donc, dès le début jusqu'à la fin et tout au cours des Écritures, nous retrouvons cette pensée continue, à savoir que nous sommes les dépositaires et les porteurs de bénédictions qui n'ont rien de terrestre pour nous, qui n'ont rien de matériel, mais un héritage spirituel et immarcessible qui est céleste et éternel, des bénédictions que nous avons à serrer comme un trésor du plus haut prix, dans nos affections, et que nous avons à cultiver. Il ne suffit pas de savoir que nous avons un trésor par la parole de Dieu, mais nous sommes invités par le Seigneur lui-même à sonder les Écritures, à nous nourrir des Écritures, de telle manière que la grâce nous accorde de faire l'expérience qui fut celle du prophète, qu'il ayant mangé, a trouvé en elle une source de joie et d'allégresse. Dieu veuille que ce soit le cas. Le Seigneur, toujours le divin modèle, le parfait modèle à tous égards, peut nous faire entendre ses paroles qu'il adresse à l'égard de son Père au sujet des siens. De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Il garde les siens et il les gardera jusqu'à la fin. Dans les passages que nous avons lus, il s'agit donc d'une mission confiée aux Lévites, qui était, quant à cette tribu privilégiée, qui a reçu le service de la maison de l'Éternel, en récompense de la position sans équivoque qu'elle a prise à l'occasion du veau d'or, il lui a été confié ce service de la maison de l'Éternel et chacune des trois familles a reçu une tâche qui lui est propre. Remarquons a priori que les Lévites n'ont pas choisi ce qu'ils devaient faire, les Mérarites n'ont pas convoité ce que les Kéhatites devaient accomplir, et les Gershonites n'ont pas choisi leur fonction. C'est l'Éternel qui leur donne ce qu'ils ont à faire, et ce qui importe, c'est qu'ils s'en acquittent fidèlement. Les Gershonites, nous le savons bien, devaient porter la partie plutôt textile du tabernacle, les tentures, les tapis, ce qui semble bien traduire, puisque c'était la partie visible de cette demeure de Dieu dans sa première réalisation, porter les caractères du témoignage de Dieu dans ce monde et les témoignages qui se rattachent à sa maison. Quant aux Kéhatites, qui ouvrent ce chapitre 4, ils portaient les objets du sanctuaire plus spécialement. Ils portaient également l'arche de l'Alliance couverte du voile et ils portaient les instruments du culte. Il est du reste très frappant de voir en quoi se résume, par quelle déclaration se résume le service confié aux Kéhatites et qui nous est écrit au verset 4 de ce chapitre 4. C'est ici le service des fils de Kéhat dans la tente d'assignation. C'est une chose très simple. On peut dire que tout est résumé dans le service qui se rattache à la maison de Dieu par une expression qui traduit ce dont nous avons à être pénétrés, la sainteté qui se rattache à la maison de Dieu parce que c'est la maison d'un Dieu saint. C'est une chose très simple. C'est bien là un caractère fondamental qui aura ses conséquences en toute chose dans le service pour celui qui en sera pénétré. Quant aux Mérarites, nous avons lu qu'ils portaient la structure, la partie solide de cette demeure. Ils portaient les ailes, ils portaient les bases et d'autres choses encore qui pourraient évoquer d'une manière plus particulière l'enseignement et les fondements sous l'aspect doctrinal, ce qui constitue la structure, nous dirions la charpente de cette maison. C'est ce sur quoi les tapis sont posés. Nous avons vu il y a quelques jours combien éloquent est le témoignage rendu ou la signification spirituelle qui se rattache à ces éléments matériels et qui met en évidence la réalité du langage typique et figuré et qui souligne également la continuité des pensées de Dieu. Plus de 8500 porteurs avaient donc reçu ces charges variées qui étaient donc confiées à leurs responsabilités. Et ce que nous aimerions souligner par la lecture de différents passages, c'est le fait que des biens, des valeurs sont confiés aux croyants, au peuple de Dieu. Ils en ont la charge, ils doivent en être dans ce monde les porteurs, de halte en halte, de traite en traite, et qu'il y aura lieu, au moment où l'on arrive au but, de rendre compte de l'usage que nous aurons fait, de ce que nous aurons conservé comme, ou ce sur quoi nous aurons veillé, avec la plus grande attention, car tout a été compté au départ. Cette pensée est traduite avec une précision particulière dans l'expression du verset 32, lorsqu'il est dit « Vous leur compterez en les désignant par nom les objets qu'ils auront apportés. » Nous comprenons bien que s'il manquait une base, comment aurait-on posé un nez ou un pilier dessus? S'il avait manqué en arrivant au lieu de la halte suivante un nez, comment la maison aurait-elle pu être réalisée? Pour que les tapis puissent être posés, pour que la maison puisse trouver sa réalisation lors de chaque halte, pour que la colonne de nuée puisse descendre, pour que le service puisse y réaliser, il fallait donc que tous les éléments soient présents, arrivent dans leur ordre et qu'il soit constaté qu'aucun d'eux n'avait été perdu en chemin. Nous comprenons le langage, la signification, combien précieuse et solennelle, qui se dégage pour nous, porteurs des vérités, combien plus précieuses que des bases d'argent, mais un trésor de la plus haute valeur, desquels nous sommes les heureux dépositaires privilégiés, mais aussi responsables d'exercer à leur égard la plus haute vigilance, de telle manière que de halte en halte et jusqu'au terme du voyage, ces choses soient conservées parce qu'elles nous ont été comptées. Comptées au départ, comptées à l'arrivée. Toute défaillance est donc mise en évidence à l'arrivée. C'est à l'arrivée, lorsque la maison devra être construite, que l'on constatera si des Lévites, si des Mérarites ont manqué de vigilance et ont laissé égarer quelque élément que ce soit. Et on pourrait constater que dans le verset 36 du chapitre 3, il est précisé que la surveillance des ailes du tabernacle et de tous ces éléments apportés est confiée au fils de Mérari. Une surveillance confiée. Soulignons ces deux expressions. Une surveillance et une confiance qui est faite de la part de l'Éternel qui leur remet ses valeurs pour que sa maison puisse trouver sa réalisation dans le cours du pèlerinage du désert. Il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires pour qu'il nous soit accordé de saisir la portée et le langage spirituel de telles déclarations. Nous ne voulons pas nous allonger trop et considérer brièvement d'autres passages. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 9, du premier livre des Chroniques et au verset 24e, les portiers étaient vers les quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Et leurs frères, dans leur village, devaient venir de séjour en séjour, d'un terme à l'autre, auprès d'eux, car dans leur charge, ces quatre furent les principaux portiers. Ils étaient lévites. Ils étaient préposés sur les chambres et sur les trésors de la maison de Dieu. Et ils se tenaient la nuit autour de la maison de Dieu, car la garde leur en appartenait, et ils en avaient la clé pour ouvrir chaque matin. Il y en avait aussi quelques-uns d'entre eux qui étaient préposés sur les ustensiles du service, car ils les rentraient en les comptant, et ils les sortaient en les comptant. Et il y en avait qui étaient commis sur les vases, et sur tous les ustensiles du lieu saint, et sur la fleur de farine, et sur le vin, et sur l'huile, et sur l'encens, et sur les aromates. Ce chapitre trouve sa correspondance dans le chapitre 11 du livre de Néhémie. Nous savons que par la grâce de Dieu, le réveil a été produit en l'an 536 avant notre ère, après 70 ans de captivité en Babylonie, et que le peuple a été appelé à remonter en Judée pour y trouver les ruines qui témoignaient de leur infidélité et des conséquences qui en sont résultées, et pour édifier premièrement l'autel et ensuite la maison de l'Éternel. Et tout cela nous montre que même dans un réveil, l'ordre et les prescriptions, les enseignements divins doivent être pleinement respectés. Ce n'est pas laissé à l'initiative des Israélites qui sont, des tribus de Juda de Benjamin qui sont là présentes à Jérusalem quant à la réalisation de la vie de cette maison de l'Éternel. Et il peut même nous être souligné au verset 13e qu'il s'agissait d'hommes forts et vaillants pour l'œuvre du service de la maison de Dieu, à savoir qu'il faut autant de force pour servir dans des conditions dites favorables que pour combattre contre l'ennemi. Il faut la même vaillance et la même force pour le service que pour le combat. Il est également remarquable de voir que les Korites sont introduits dans ce service et qui démontrent une vigilance, un attachement au service qui leur est confié et aux biens qui sont placés entre leurs mains, ce qui contraste avec ce qui s'était passé sous leur père, et leur soumission affinée descendant d'Aaron contraste avec les dispositions de leur père qui ont été l'objet d'un jugement d'une sévérité particulière lorsqu'ils avaient cherché à supplanter Moïse et Aaron. Leur soumission est digne de remarque. Mais encore dans ces passages, nous voyons que ces hommes qui étaient préposés au service gardaient les seuils. C'est ce que nous avons au verset 19e que nous n'avons pas lu. Ils gardaient les seuils. Un peu plus loin à la fin du verset, ils gardaient l'entrée. Et ils étaient choisis pour être les portiers des seuils. À la fin du verset 23e, ils sont établis aux portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente, pour y faire la garde. Toutes ces expressions soulignent cette vigilance à l'égard de tout ce qui se rattache à la maison de l'Éternel, à la maison de Dieu, et qui se trouve nécessairement transposée, selon les enseignements du Nouveau Testament, transposée dans nos cœurs par cette vigilance que nous sommes appelés à exercer, de laquelle nous avons à être conscients, en rapport avec les droits divins qui se rattachent avec sa maison actuellement, son assemblée. Il y avait donc des portiers aux quatre vents, ce qui nous montre que tout le pourtour était placé sous la surveillance de ceux qui veillaient aux portes, prenant garde qu'aucun élément étranger ne puisse s'y introduire. De surcroît, nous avons lu que les vases et les biens leur étaient confiés, la garde leur en était donnée, tout ce qui appartenait à l'Éternel, ils avaient une clé pour ouvrir et pour fermer et pour mettre à l'abri pendant la nuit, car s'il est un temps, une condition dans laquelle l'ennemi est particulièrement actif, c'est dans la nuit. Or, nous sommes dans la nuit, dans les ténèbres morales et spirituelles de ce monde, d'une manière particulière, où l'ennemi agit avec persévérance et subtilité, combien il importe de mettre sous clé, si l'on peut s'exprimer ainsi, ces valeurs qui nous sont données, et chaque jour, on les comptait, ces vases de valeurs, on les comptait quand on les entrait, on les comptait quand on les sortait. Toujours la même pensée. Nous avons vu qu'il y avait des charges inférieures, si l'on peut dire, chacun était à sa place. Il y avait ceux qui s'occupaient de la fleur de farine, du vin, de l'huile, de l'encens et des aromates. Il n'est pas dit qu'ils faisaient la composition de l'encens et des aromates, ce qui était du ressort des sacrificateurs. Mais comme le traduit 1 Corinthiens 12, les fonctions sont les plus variées. Ce qui importe, c'est que chacun s'en acquitte et les accomplisse là où il a été placé, selon ce que la grâce lui a confié. La récompense ne sera jamais en accord ou proportionnel à l'amplitude de l'activité, mais à la fidélité avec laquelle le service, même le plus humble et le plus effacé, aura été accompli. Nous passons à une autre portion dans le chapitre 8 du livre d'Esdras. Livre d'Esdras, chapitre 8e, dès le verset 26. Et je pesais en leurs mains 650 talents d'argent et en ustensiles d'argent 100 talents et en or 100 talents et 20 coupes d'or valant 1000 darics et 2 vases d'airain d'un beau brillant précieux comme l'or. Et je leur dis, vous êtes saints consacrés à l'Éternel et les ustensiles sont saints et l'argent et l'or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Veillez et gardez-les jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des lévites et devant les chefs des pères d'Israël à Jérusalem dans les champs de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les lévites reçurent au poids l'argent et l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem à la maison de notre Dieu. Et nous partîmes du fleuve Ava le 12e jour du premier mois pour aller à Jérusalem. Et la main de notre Dieu fut sur nous et nous délivra de la main de l'ennemi et de toute embûche sur le chemin. Et nous arrivâmes à Jérusalem et nous demeurâmes là 3 jours. Et le 4e jour, l'argent et l'or et les ustensiles furent pesés dans la maison de notre Dieu entre les mains de Méremoth, fils d'Uri, le sacrificateur, et avec lui était Éléazar, fils de Phiné, et avec eux Jobabad, fils de Jeshua, et Noadia, fils de Binui, lévite, selon le nombre et selon le poids du tout. Et en même temps, tout le poids en fut inscrit. Les fils de la transportation qui étaient revenus de la captivité présentèrent des holocaustes au Dieu d'Israël, 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, 12 boucs en sacrifice pour le péché, le tout en holocauste à l'Éternel. Nous situons très brièvement dans le cours des circonstances celle de laquelle nous venons de faire la lecture, à savoir qu'il s'agit du retour du second convoi remontant de Babylone. C'est donc en 536 que, sous la conduite de Zorobabel, environ 50 000 personnes, réveillées par l'Esprit de Dieu en Babylonie, ce même esprit ayant réveillé Cyrus, le disposant à donner toute liberté à ceux qui le voulaient pour remonter à Jérusalem, remonte donc pour y trouver Jérusalem dans les ruines et pour, comme nous l'avons déjà évoqué, y reconstruire l'autel et y reconstruire la maison de l'Éternel, ce qui a démontré d'une part le zèle, d'autre part un manque de persévérance par la crainte et les interdictions, mais en raison de l'intervention des prophètes tels qu'Aggé et Zacharie, le travail qui avait été interrompu pendant 15 à 16 ans a été repris, et en 4 ans seulement, il est achevé. 68 ans plus tard, c'est un second convoi qui monte en l'an 468 avant notre ère, sous la conduite d'Esdras. Cet homme si remarquable, dont la généalogie est sans lacune, qui avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, à la faire et à l'enseigner, comme nous lisons verset 10 du chapitre 7, cet homme va être à la tête d'un convoi de moins de 2000 personnes, et il va remonter à Jérusalem, porteur de valeurs du plus haut prix. Nous savons bien que les biens de l'Éternel, de la maison de l'Éternel, avaient été ravis par les Chaldéens et avaient orné les demeures des rois de Babylonie. Et il est accordé cette grâce à ce convoi qui remonte donc plus tard sous la conduite de cet homme de Dieu Esdras, de pouvoir porter de telles valeurs et les ramener à Jérusalem. Ils partent donc, et la description nous a été donnée, de ce dont ils étaient particulièrement les porteurs. Cet homme remarquable, pour franchir ce long voyage marqué d'écueils et de dangers, il ne va pas faire appel à la cavalerie du roi pour être protégé, mais il va se confier uniquement en son Dieu. Et nous savons quels exercices ont accompagné ce chemin de retour, cet arrêt au bord du fleuve de Ahava, mais la fidélité, la dépendance et la confiance de cet homme Esdras est démontrée d'une manière digne de remarque jusqu'au jour où ils arriveront à destination. Ils portent donc des valeurs. Et à ceux qui en ont la charge, il peut être dit ce que nous avons lu au verset 29e et qui souligne toujours la même pensée, « Veillez, gardez-les jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des lévites. » Veillez, gardez, avoir l'attention la plus soutenue et la vigilance constante, afin qu'aucun de ces éléments ne puisse être ravi par l'ennemi ou perdu en chemin, car ils seront pesés et comptés lorsqu'on arrivera à destination à Jérusalem. Le verset 31e est d'une grande beauté. Il est encadré par 2 expressions qui sont de nature à être soulignées dans nos cœurs. Nous partîmes, et à la fin, nous arrivâmes. La foi de cet homme est couronnée. Conscient des dangers, conscient de la faiblesse d'un peuple, il n'y avait que peu ou pas de Lévites. D'où cet exercice qui l'a conduit à l'humiliation au bord du fleuve de Hava et à demander à l'Éternel le vrai chemin pour arriver à destination. Ils sont partis, ils sont arrivés. Entre le départ et l'arrivée, il est fait mention de deux choses. D'une part, il nous est dit « La main de notre Dieu fut sur nous, il nous délivra de la main de l'ennemi et de toute embûche sur le chemin. » Il y a deux mains qui sont en activité. La main de l'ennemi toujours active pour chercher à entraver ce chemin du peuple de Dieu qui va aboutir à la destination. Pour nous, non pas la Jérusalem historique ou géographique, mais une Jérusalem, celle de l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, la maison du Père. Nous sommes en chemin comme peuple de Dieu et les périls nous environnent. Il y a la main de l'ennemi qui est là pour nous détourner, pour détacher, si faire se peut, quelqu'un et le rendre dans une voie d'égarement, pour leur ravir ces valeurs desquelles ils ont le privilège d'être les porteurs. Mais il y a une autre main qui est aussi en activité et qui prévaut sur la première, c'est la main de notre Dieu. S'ils sont arrivés, c'est parce que la main de l'ennemi a été retenue par la grâce de Dieu, ils ont été mis à l'abri des périls, des écueils, des dangers, des assauts de cet ennemi, parce que la main de leur Dieu a été sur eux. Nous sommes également assurés que jusqu'au dernier pas du pèlerinage, jusqu'au moment où nous arriverons à destination, la main de notre Dieu sera en bien pour nous protéger, pour nous ramener, pour nous conduire, pour s'étendre sur nous de telle sorte que nous sommes assurés que nous arriverons au but. Nous partîmes, nous arrivâmes. En dépit de la main de l'ennemi, en vertu de la main de l'Éternel. Lorsqu'ils sont arrivés, au verset 32e, nous avons lu, nous arrivâmes à Jérusalem, et ensuite il s'agit de remettre ces biens qui ont été confiés, l'argent, l'or, les ustensiles, qui sont pesés et tout le poids en est inscrit. Le nombre des parts a été compté. Le nombre à l'arrivée est compté. La vigilance, la fidélité avec laquelle ce voyage a été accompli démontrera aussi les soins que ces porteurs ont démontrés à l'égard des valeurs qui leur étaient confiées. Et nous avons une scène ici que nous pourrions appeler l'une des manifestations d'un tribunal de Christ dans l'Ancien Testament en figure. Nous le répétons, nous sommes partis, nous sommes en voyage, tout à l'heure, nous allons arriver. Bientôt, le cri de commandement, la voix de l'archange, la dernière trompette va retentir et nous serons introduits avec le Seigneur dans la maison du Père. Là sera manifestée la manière selon laquelle nous aurons cheminé et selon laquelle nous aurons été démontrés fidèles ou infidèles quant aux valeurs du plus haut prix, combien plus élevées que des vases d'or et d'argent, ce qui nous a été confié pour le voyage jusqu'à la fin. Nous l'avons peut-être déjà dit, nous pourrions nous poser la question, pourquoi donc ce tribunal de Christ? Pourquoi donc devons-nous comparaître dans le ciel? Alors que nous serons rendus semblables au Seigneur, que le temps de la responsabilité aura pris fin, que le voyage est achevé et que nous sommes entrés dans une condition qui ne peut subir aucun changement et à l'abri de tout danger. Mais le Seigneur veut que nous prenions connaissance de l'appréciation qu'il a de notre vie sur la terre. S'il n'y avait pas cette scène de la comparution devant le tribunal de Christ, nous ignorerions éternellement ce que le Seigneur pense et la manière selon laquelle il a apprécié notre vie chrétienne. Mais pour comprendre et apprécier comme lui, il faut d'être fait semblable. Raison pour laquelle ce n'est que lorsque nous serons glorifiés que nous connaîtrons cette scène du tribunal de Christ, une comparution et non pas un jugement, car il n'y aura aucun condamné. Tout est pesé, tout est inscrit. La fidélité de chaque porteur individuellement est démontrée, elle est enregistrée. Ce qui nous réjouit, c'est de savoir que de cette comparution, il ne résulte donc aucune condamnation, mais elle mettra en évidence les immenses richesses de la patience, de la bonté, de la grâce divine qui nous a amenés jusque-là. En dépit de tant de défaillances, de tant de défaites, de tant de manquements dans le cours de nos vies, la grâce nous a amenés jusque-là. Elle nous a portés jusque-là. La grâce qui nous a apporté le salut, qui nous a portés pendant le chemin, va nous transporter jusque dans la présence du Seigneur. Il en résultera donc un chant d'allégresse, des accents de louange qui se poursuivront éternellement de la part d'un peuple racheté et glorifié. À la suite de ces déclarations, il nous est dit que tout étant inscrit, c'est alors le moment des sacrifices. On offre des holocaustes, on offre des taureaux pour tout Israël. Ici, nous voyons que tout Israël est inclus dans cette offrande des taureaux, 12 taureaux pour les 12 tribus. Et pourtant, là, il n'y avait pas les 12 tribus. Ce qui souligne cette réalité que le peuple de Dieu est toujours vu devant Dieu et dans la pensée de Dieu, il est vu dans son ensemble. 12 tribus pour les 12 tribus. 12 taureaux pour les 12 tribus d'Israël. Et ensuite, il nous est dit 12 boucs en sacrifice pour le péché, le tout en holocauste à l'Éternel. Nous sommes frappés par cette expression des sacrifices pour le péché en holocauste à l'Éternel. Nous savons bien la distinction qu'il y a entre ces deux sacrifices. L'holocauste n'étant pas en rapport avec l'expiation du péché, et le sacrifice pour le péché étant en rapport direct avec la question du péché. Et là, nous avons une expression inhabituelle dans le livre du Lévitique, des sacrifices pour le péché en holocauste. En effet, lorsque nous serons introduits dans la présence du Seigneur, nous n'aurons plus besoin de sacrifices pour le péché. La question du péché a été réglée à la croix. C'est une affaire sur laquelle Dieu ne revient pas. Il a fait l'abolition du péché par son sacrifice. Nous sommes par la foi rendus parfaits à perpétuité en lui. La question du péché est réglée. Mais le sacrifice pour le péché n'est pas oublié. Et le fait qu'il y a eu un sacrifice pour le péché sur lequel est fondée notre justification constitue une adoration et un thème éternel de louange. Ce n'est plus le fait qu'il doit être fait, ce sacrifice. Il doit être offert, mais il a été offert. Et il demeure un souvenir ineffaçable et un mobile d'adoration de la part des bouches d'un peuple racheté et glorifié. Sacrifice pour le péché en holocauste à l'Éternel. Nous avons une expression qui pourrait nous paraître étrange, mais qui est une perle que la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu placent devant nos cœurs. Nous pensons à une parabole qui traduit d'une manière bien éloquente cette même pensée des valeurs confiées dans le chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Nous lisons au chapitre 25, dès le verset 14, la parabole des talents. Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à un autre 2, et à l'autre, 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt, il s'en alla hors du pays. Or, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, et les fit valoir et acquit 5 autres talents. De même aussi, celui qui en avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vint et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, « Maître, tu m'as remis 5 talents, voici j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, « Maître, tu m'as remis 2 talents, voici j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et lui dit, « Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé, et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. » Et son maître répondant lui dit, « Méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers, et quand je serais venu, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à chacun qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté, et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Dans le cours de cet évangile dispensationnel qu'est celui de Matthieu, nous avons un développement prophétique en rapport avec tout ce qui se rattache au jugement du Fils de l'homme, le Seigneur. Mais il est frappant de constater que cet enseignement que le Seigneur développe se trouve interrompu par une parenthèse qui s'ouvre au verset 45 du chapitre 24 pour se fermer au verset 30 du chapitre 25, une parenthèse qui ne concerne pas du tout le déroulement prophétique en rapport avec les caractères du Fils de l'homme, mais qui a pour objet 3 paraboles qui nous concernent. Et 3 paraboles qui ont trait à la venue, non pas du Fils de l'homme, pour nous, pour les Juifs, en vue de l'établissement du règne, après les jugements, mais la venue du Seigneur que nous attendons. Il est frappant de voir cette interruption, cette parenthèse comportant ces 3 paraboles. La première ayant pour objet la mission confiée au domestique qui doit nourrir les esclaves de la maison, la seconde traitant des vierges qui sont appelées porteuses de leur lampe à attendre la venue de l'époux, et la troisième de laquelle nous venons de faire la lecture, qui se concerne donc ces valeurs que le maître confie à ses esclaves pendant son absence. Dans la première de ces 3 paraboles, il s'agit de servir. Il fallait servir dans la maison de la part du maître pour la nourriture de ses esclaves qui constituent l'activité de la maison. Dans la seconde parabole, il ne s'agit plus de servir, il s'agit d'attendre. D'attendre en faisant briller la lumière dans l'obscurité de ce monde et d'attendre la venue de l'époux. En maintenant des lampes pleines d'huile, figure du Saint-Esprit. Dans la troisième parabole que nous avons lue, nous pourrions dire que nous avons les pensées conjuguées des 2 premières, à savoir servir en attendant. Ce qui correspond à la disposition de cœur combien précieuse qui a été celle des Thessaloniciens qui se sont tournés des idoles vers Dieu pour servir et pour attendre des cieux celui qui allait venir. Le Seigneur donc est comparé à cet homme qui quitte le pays pour longtemps. Rien de plus éloquent pour nous, le Seigneur a quitté cette terre voici bientôt 2000 ans, mais il a annoncé son retour. Et pendant le temps de son absence, il confie aux siens des valeurs. Dans une mesure différenciée, selon la sagesse et la connaissance parfaite qu'il a de la capacité de chacun. À l'un, il donne 5 talents, à l'autre, il donne 2 talents, au troisième, il n'en donne qu'un. Celui qui en a reçu 1 est-il moins responsable que celui qui en a reçu 5? Nullement. Ce qui importe, c'est d'apprécier ce qui a été confié, ce que nous avons reçu de sa part, quelle que soit la nature des biens qu'il nous a confiés, ils sont tous spirituels, le service qu'il nous a donné, sans rechercher ou à penser que nous sommes frustrés si nous avons reçu qu'un talent par rapport à celui qui en a 5, mais en étant conscients du privilège et de la grâce qu'il nous accorde et de notre responsabilité dans la mesure de la capacité que le Seigneur nous connaît et face à laquelle nous sommes appelés et responsables d'être trouvés fidèles. Le jour vient où les comptes sont réglés, une fois encore. On trouve toujours ces comptes. Et nous sommes frappés de voir que dans l'administration du ciel, combien les comptes sont bien tenus. Les biens confiés aux Mérarites étaient comptés. Les vases étaient comptés. Les talents ont été comptés. Et on arrive au moment de la manifestation de toutes choses. Et le maître qui vient réunit ses esclaves au verset 19 et règle les comptes avec eux. Nous nous acheminons vers ce moment. La grâce divine nous a confié les valeurs du plus haut prix, nous le répétons. Et notre privilège qui accompagne la responsabilité, c'est de l'apprécier, car c'est dans la mesure où nous l'apprécierons que nous les garderons, ces valeurs, et que nous chercherons à les faire valoir. Dans quelle mesure les révélations des pensées divines, qui sont de si précieux talents, en rapport avec la vie chrétienne, en rapport avec la vie d'assemblée, en rapport avec les caractères de son témoignage que nous sommes appelés à maintenir et à rendre dans ce monde, nous sont-ils précieux? Ce sont des talents qui nous sont donnés et qui nous ont été comptés et qui seront également comptés à l'arrivée. Il règle donc les comptes avec eux. Le premier paraît. Il a fait valoir, il a doublé ce qu'il a reçu. Le second s'approche. Il a également doublé ce qu'il a reçu. Quelle est la différence qui caractérise l'appréciation du maître? Pas un mot. Pas un mot de différence entre les deux appréciations. Qu'il ait rendu 5 talents de plus parce qu'il en avait reçu 5, ou 2 talents de plus parce qu'il n'en avait reçu que 2, le fait est que l'un et l'autre a su apprécier ce qui a été confié, il l'a fait valoir, il a doublé dans la même mesure ce qui lui avait été donné. De telle sorte que l'appréciation du maître ne diffère en aucun point. Bien bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai admiré sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître, parole identique prononcée à l'un comme à l'autre. Ce qui souligne que ce qui importe, ce n'est pas le volume, l'amplitude, l'ampleur de ce que nous faisons, mais accomplissons-nous notre service en rapport avec ce qui nous a demandé et confié. Et démontrons-nous, c'est là ce qui est placé sur nos cœurs, pourrons-nous ou sera-t-il démontré à l'arrivée que nous avons accompli selon ce qui nous a été confié et selon ce que nous avons apprécié. Les deux sont appelés à entrer dans la joie du maître. Et les deux, aux deux, il est dit, « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Combien il est encourageant de lire cette déclaration digne de la grâce divine qui nous montre que la récompense dépasse ce qui a été fait. Fidèle en peu de choses, récompense, établissement sur beaucoup. Nous serons toujours les débiteurs. Le Seigneur ne sera jamais débiteur. Et le peu qui est fait pour lui sera grandement récompensé. Certes, ce n'est pas pour la récompense que nous avons à être fidèles. C'est par amour. Mais le Seigneur nous laisse entrevoir, dans de nombreuses circonstances décrites dans sa parole, la récompense comme un encouragement. Arrive le troisième. Il a reçu un talent. Quel usage en a-t-il fait? Nous l'avons lu, il l'enfouit dans la terre. Il se présente devant le maître. C'est lui qui parle. Que dit-il? C'est le seul qui a l'audacieuse prétention de donner son appréciation du maître. Je te connaissais. Tu es un homme dur. C'est le seul qui a la prétention de connaître le maître. Les autres n'ont pas dit une chose semblable. Mais le connaître dans le sens négatif, accusateur. Et c'est le seul des trois qu'il ne connaissait pas. Car déjà, s'il avait connu les exigences du maître, il aurait craint. Il n'a pas craint. De plus, il ne craint même pas de prononcer ces paroles effrontées à la garde du maître, en lui disant qu'il est un maître dur et qu'il exige sans motif. Il rend donc ce talent qu'il a reçu en lui disant « Prends ce qui est à toi, voilà ton bien. » Nous entrevoyons dans l'attitude de ce troisième esclave celle qui caractérise la chrétienté professante sans vie au jour du règlement de compte. L'apostasie totale, le rejet de ce qui a été confié. Ne sommes-nous pas confrontés aujourd'hui à une telle réalité où la chrétienté ou le christianisme rejette toutes les bénédictions qu'il comporte et les enfouit dans la terre, jusqu'au moment où éclate au grand jour cette apostasie, si tôt avant le jugement, où il rejette d'une manière effrontée en rendant au maître ce qui lui a été donné. Prends ton talent, nous n'en voulons plus rien, tu as ce qui est à toi. Chose frappante, c'est que le talent en lui-même n'a pas perdu de valeur. Pendant tout le temps où il était enfoui dans la terre, pendant tout le temps où cette église professante a méprisé d'une manière visible et toujours plus accentuée les bénédictions que la grâce divine lui avait confiées, les valeurs divines ne perdent jamais leur valeur. L'or n'est pas quelque chose qui se pourrit dans la terre. Et les valeurs retournent au donateur. Il n'y a rien de perdu. Le talent n'a pas perdu sa valeur. Ce qui nous terrifie, c'est de voir cette attitude dépourvue de l'élémentaire respect qui est la plus effrontée de la part de cet homme qui, en quelque sorte, jette à la face du donateur ce que sa bonté doit confier. C'est l'attitude de l'Église professante sans vie qui sera consommée au jour de son apostasie finale et qui précédera la prononciation de son jugement dont nous avons la description la plus frappante et la plus solennelle dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. Tu as ce qui est à toi. Alors le jugement est prononcé au verset 30. Jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors, où sont les pleurs et les grincements de dents. C'est un esclave inutile. Nous pourrions nous étendre, et cela comporte un sujet intéressant et profitable de méditation, ce que la parole qualifie d'utile et ce qu'elle qualifie d'inutile. Ce qui est utile, toute parole est utile, nous dit l'Épître à Timothée, pour notre enrichissement et notre formation spirituelle, ce qui est utile. Nous sommes appelés dans la formation à l'école du Seigneur, qui veut nous dépouiller de tout ce que la chair cherche toujours à produire et à nous séparer, nous sanctifier pour lui, à être des vases à honneur, utiles au maître. Ici, nous avons un vase de rebut, un vase qui est jeté, un vase inutile. Cet esclave-là s'est démontré inutile. Et au nombre des condamnés, il est jeté. jetée dans les tourments éternels, dans l'étang de feu et de soufre, la seconde mort, c'est la fin future, mais assurée, d'une chrétienté dans la partie sans vie, mais qui a reçu le talent. Quelle solennité. Nous avons déjà évoqué ce certificat, en quelque sorte, à l'intention de Philadelphie, dans l'Apocalypse au chapitre 3, où l'Esprit de Dieu qui s'adresse à ces diverses assemblées et qui commence toujours par cette déclaration « Je connais tes œuvres », ce qui nous montre que nous avons affaire à celui qui connaît toutes choses, il sait et se souvient de ce qu'il a confié à chacun au départ, « Je connais tes œuvres », et que qu'est-il dit de cette Église démontrée fidèle ? Trois choses, tu as peu de force, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Et dans un temps où tout est contraire au témoignage, où tout est opposé à la manifestation des caractères d'un vrai témoignage selon Dieu, n'oublions pas, et c'est là notre encouragement précieux, que garder sa parole et ne pas renier son nom, c'est tout pour Christ. Il ne nous demande pas davantage. Que le Seigneur nous rende désireux de serrer dans nos affections, dans nos cœurs, cette parole vivante et permanente, rendue opérante et pénétrante par le Saint-Esprit, qui nous guide et nous conduit comme une lampe sur notre chemin et à nos pieds, dans le chemin de la lumière, le chemin de la bénédiction, le chemin de son approbation. Qu'il nous éclaire aussi quant à l'appréciation que nous avons à avoir des valeurs du plus haut prix et des valeurs impérissables qui sont le partage de notre héritage, toutes ces valeurs desquelles nous sommes les porteurs jusqu'au dernier pas de notre pèlerinage. Bientôt, nous serons introduits dans la présence du Seigneur et il veut nous introduire dans la jouissance de son propre partage. Il est frappant de voir que tant dans cette parabole que nous avons lue, que dans les dernières paroles qui concernent Philadelphie, ce qui nous est donné, c'est ce qui est à lui. Il veut nous faire entrer dans sa propre joie, dans son propre bonheur, dans son propre partage. C'est ce qui clôt ces versets concernant Philadelphie au verset 12, « Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. » Et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Quel est ce nouveau nom qu'il va inscrire éternellement sur ceux qui l'ont reçu, si ce n'est ce nom qui lui a été donné, tu appelleras son nom Jésus. Le nom de l'homme crucifié, de l'homme rejeté, mais de l'homme exalté, glorifié, celui vers lequel nous acheminons. Ce nom nous est acquis, il est notre éternel partage. Le nom, mon nouveau nom, sera sur eux. Que ces choses nous soient précieuses, nous encouragent, nous incitent à une fidélité toujours plus grande et à un attachement toujours plus véritable au Seigneur, de telle sorte qu'au jour des récompenses, il puisse nous être dit à nous aussi, bien bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie qui est la mienne, dans la joie de ton être.